Time Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM en ce mardi 27 septembre 2022. 20h pétante, et oui. Allez, 20h30 du côté de l'antre parisien. On retrouvera le Brésil en match amical qui rencontrera les Aigles de Carthage. Et oui, Brésil-Tunisie ce soir, 20h30, faut pas l'oublier. Allez, les Tunisiennes, les Tunisiens, ben on ouvre le standard rien que pour vous ce soir. Le 01 53 48 3000. Au menu de l'émission en tout cas, ce soir on reviendra dans cette émission de Time Sport. Le Portugal versus Espagne, un match assez bouillonnant, tout comme le Brésil-Tunisie, 20h30 au Parc des Princes. Ces Anglais et Allemands, toujours incroyables, 3 buts partout hier soir. Là aussi c'était assez chaud justement. Et on parlera, sans oublier, de cette équipe de France pas si forte que ça. Voilà, c'est certains bookmakers qui en parlent encore et encore. Nos Bleus, plus la tête à ce fameux mondial au Qatar. Eh oui, cette Coupe du Monde 2022 que l'on retrouvera à partir de mi-novembre à mi-décembre. On vous en dit un peu plus au cours de cette émission. On vous fait remporter un magnifique ouvrage, Arnaud Federer, de Laurent Chambaletto, aux éditions Solar. Voilà, ça fera plaisir à un certain consultant ce soir. On essaiera de lui faire remporter. On va lui envoyer tranquillement. Voilà, si vous voulez le remporter, tout simplement, vous composez le numéro du standard, le 01 53 48 3000. Foudine, notre réalisateur ce soir, se fera un plaisir de vous faire passer à l'antenne de Beurre FM, la radio de la diversité. Et on accueillera aussi pour la première fois dans cette émission Grégoire Axelrod, justement avec nous, des ténèbres. J'ai eu de la lumière. Voilà, c'est un magnifique ouvrage. On essaiera d'en parler un peu avec lui et sans oublier aussi tout ce qui se passe dans cette planète football. Allez, rien de plus simple pour commencer cette émission. On va voir, on va présenter toute l'équipe de Time Sport. On y va.
Time Sport. Il est pour parler.
On a le coach Tollé ce soir qui est bloqué du côté de la porte d'Auteuil. Mais nous, on a déjà en plateau avec nous. Allez, c'est Louis-Marie. Comment ça va, Louis-Marie? Je faisais allusion à toi pour Cambretto. Hein.
J'avais vu l'idée, effectivement.
Eh ouais.
Bah écoute, ça fait plaisir.
On dirait partir.
Ouais.
Et parti, excuse-moi.
C'était prévisible. Donc, malheureusement.
Ça nous a fait pleurer.
Bah ouais, hein, malheureusement, c'est dommage. C'est parmi ceux qui n'ont pas pu bénéficier d'un vrai départ à cause du Covid. C'est ce qui a fait qu'il est parti aussi dans ces conditions-là, parce que il voulait se faire un vrai départ, il voulait avoir une dernière émotion. Et le problème, c'est que, bah, comme il l'a dit par exemple à Roland Garros, il a fini sans public. Ça arrivait très souvent, donc il avait envie de remettre une pièce dans la machine, mais le corps a pas suivi malheureusement. Donc il est un peu parti, pas par la petite porte, mais ça fait un an qu'on l'a pas vu sur un court professionnel, et c'est vrai que c'est un peu dommage de partir comme ça. Mais bon, on gardera que le meilleur.
Allez, on va retrouver aussi Alexis, il est avec nous déjà hier soir.
Salut, comment ça va? Bonsoir à tous les auditeurs et les auditrices. Bah, ça va très bien. Écoute, hein, on s'est remis du débat enflammé d'hier soir sur l'équipe de France. Et puis aujourd'hui, ouais, on a encore du beau avec la Ligue des Nations. Donc,
ah bah justement.
La Joga Bonito au Parc des Princes, hein, faut pas oublier surtout. Donc,
c'est vrai.
On va parler de ça.
Il y a le Brésil, Tunisie, ce soir 20h30 au Parc des Princes, tu le dis si bien. Mais il y a aussi le Portugal-Espagne, groupe B. Hein, Louis-Marie, de cette fameuse 6e journée de cette Ligue des Nations, 20h45 du côté de Braga. On en parlait hier avec Boula, avec Abdel Alexis et sans oublier Juan José. Un mot concernant ces deux grandes nations du football?
Bah, j'ai envie de dire que c'est un peu à l'image de tout le foot européen en ce moment. On voit que ce sont des équipes qui sont fortes, sans être au top et en pleine confiance. Tu vois, c'est un peu ce que je ressens aujourd'hui, c'est ce qu'on peut ressentir de la France. On reparlera de l'Allemagne et de l'Angleterre.
Bien sûr,
après,
tout à l'heure.
Et c'est un peu le même sujet. Et quand on voit le Portugal et l'Espagne, on voit l'Espagne qui est une équipe très jeune,
ouais,
qui est en reconstruction et qui manque peut-être de puissance, moi je trouve, au milieu, donc qui a son style de jeu, mais qui a encore besoin de grandir. Et le Portugal qui m'a jamais paru aussi armé et qui doit faire face aujourd'hui à presque un problème Ronaldo. Donc ça, c'est quelque chose qui est en train d'arriver au Portugal. Ils sont en train de remettre en question Cristiano. Bah pourquoi? Parce que ça pousse derrière, il y a beaucoup de bons joueurs.
Fois, hein.
Ouais, ça fait, c'est vrai que c'est une première, il a tellement été indiscutable. On parle d'un mec qui a marqué 117 buts en sélection, je crois. Enfin, c'est quand même
c'est pas rien.
Ouais, c'est complètement sidérant.
Le joueur portugais de l'histoire.
Oh bah là, c'est pas peut-être sur le Portugal, on est d'accord, la question c'est savoir s'il est le meilleur joueur du monde de l'histoire, mais ça c'est encore un autre débat. Mais le Portugal pour moi fait partie des gros outsiders de cette compétition, mais il va falloir gérer le cas Cristiano. Donc l'opposition va être intéressante ce soir.
Alors c'est vrai, surtout que
c'est
vrai que l'Espagne a pas fait un très bon match contre la Suisse. On l'a vu, des difficultés dans le système, beaucoup de possession mais très peu d'occasions finalement. Donc et puis le Portugal de son côté avait fait, c'est sûr, contre la République tchèque qui est peut-être un adversaire de moins gros calibre, mais avait fait un très très bon match avec une équipe remaniée. Là ce soir tout le monde sera là, donc ça va, faut pas oublier que c'est quand même un match pour la première place du groupe, pour le qualif, pour la qualif pour le Final Four, donc ça risque d'être un match voilà, avec sans doute avec des buts, avec de l'engagement, donc on...
c'est un vrai match en jeu, mais c'est ce qu'on aime dans cette Ligue des Nations. Moi je trouve ça a quand même très avantageusement remplacé les matchs amicaux. Tu te retrouves avec des matchs en jeu entre grandes équipes régulièrement, et ça change tout, même si l'enjeu est pas délirant, même si les équipes n'en sont pas toujours hyper motivées pour la gagner, malgré tout on voit qu'elle joue le jeu en majorité. On était très content de la prendre il y a un an, cette compétition. Donc je pense qu'effectivement, des matchs comme ça, on en a toutes les semaines maintenant. Enfin, à chaque fois qu'il y a des regroupements, il y a des super matchs. Oui. Ça, c'est quand même très bien. Et comme le dit Alexis, c'est vrai que l'Espagne, moi, je trouve qu'au milieu, ça possède la balle. On est un peu dans une caricature de l'Aurora.
C'est vrai.
Ah ouais. Ça manque de verticalité, ça manque de puissance au milieu. Et je ne sais plus qui disait ça, j'ai lu, et c'est très vrai, que l'Aurora, elle signerait tout de suite pour avoir un Tchouaméni, parce que c'est exactement le genre de milieu qui lui manque.
Ouais.
De la puissance, du physique.
Pourtant, il a bien fait tourner ses joueurs, lui, comparé à Didier Deschamps.
Bah, on peut pas dire que Deschamps n'a pas fait tourner, hein, avec tous les absents.
Ouais.
Il a pas fait exprès.
Ouais, à la fin, lui, Marie.
Ouais, non, mais après, il fait tourner parce qu'il cherche la bonne solution aussi.
Ouais.
S'il avait un 11 indiscutable comme en 2010, eh ben, il ferait moins tourner. Moi, je trouve que cette Espagne, elle ressemble un petit peu aux Espagnes, justement, après 2010. Ces Espagnes où tu disais, ça joue bien, mais il manque quelque chose. Et là, je trouve que devant, ça manque de poids. Au milieu, ça manque de poids. J'arrive pas à l'avoir comme un outsider à la Coupe du Monde.
Non, c'est vrai, moi, pour être honnête, moi non plus.
Alors, Alexis.
Je vois beaucoup plus de Portugal que l'Espagne.
Les Portugais.
Pour la Coupe du Monde, hein.
Ah, il y a beaucoup plus de talent en Portugal.
Ouais, ça, c'est vrai.
Les Portugais misent sur un 4-3-3. Ouais, avec Costa aussi dans les cages.
Il est beau, hein.
Derrière Jairo Cancelo.
Les deux meilleurs latéraux du monde, que ce soit Cancelo, Mendes. Après, on va dire Cancelo est aussi le meilleur latéral gauche du monde. Ça, c'est.
Oui, tu vas peut-être un peu loin, mais. En tout cas, c'est la meilleure paire de latéraux en sélection. Ça, je te rejoins tout à fait.
Non, clairement. Après, pareil, en défense centrale, c'est solide. On aura encore Ruben Dias. Bon, Danilo, que moi, j'aime bien. Enfin, je trouve qu'il fait le boulot. Je trouve qu'il y a une complémentarité entre Dias et Danilo. Et puis après, oui, le milieu de terrain, voilà. Ça doit être Neves, Carvalho, Fernandez, qui doivent jouer ce soir. Donc, ça aussi, très intéressant. Et puis, devant, on les présente plus, on les connaît. Hein. Donc, avec Léao, qui.
Ah, mais il y a beaucoup de talent dans cette équipe. Et il y a des profils différents. C'est pour ça, Léao, c'est un de ceux qui, entre guillemets, pose problème positivement à cette sélection.
Bien sûr.
Parce que là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de talent à tous les postes. Et c'est une des seules sélections qui n'a pas de points faibles. Quand on regarde le concert des nations, les Anglais ont pas d'arrière gauche, nous on n'a pas d'arrière droit, les Allemands ont plus trop d'avant-centre, pareil pour les Espagnols qui enfin, il y a toujours un point faible dans toutes les équipes, eux, ils n'ont pas de creux. Éventuellement le gardien, et encore il fait le boulot.
Oui, encore il est bon, ouais. Le petit jeune là de Porto, c'est ça.
Voilà, c'est pas, Costa qui on n'a pas un très, il y a pas un très grand gardien, ils en ont rarement eu de toute façon. Mais il y a pas de point faible dans cette équipe et il y a de la rotation. Finalement, il y a des mecs qui rentrent, il y a quand même pas mal de monde. Moi, j'aime beaucoup cette équipe parce qu'on l'a pas cité, mais l'attaquant Atlético qui m'échappe là. Voilà.
Félix,
voilà. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de talent dans cette équipe. Et quelque part, la seule question, ça va être la gestion du cas Cristiano. Est-ce que il arrive encore à se réimposer? Il peut régler les questions ce soir, hein. S'il marque un doublé ce soir, on n'en parlera pas demain.
Bien sûr.
Parce qu'il peut jouer, ce rôle d'avant-centre pur.
Ouais.
Qui attend les ballons et ça peut
marcher.
Pourquoi
pas lui, Marie ?
Mais s'il arrive à se muer comme patron de cette équipe et emmener tout le monde avec lui mentalement, ça peut être très dangereux. Moi, je le vois comme un gros outsider au Brésil.
Alors, oui. Alexis, justement, Luis Enrique avec toi, Louis Marie, qui compare le match au Portugal en Ligue des Nations à un quart de Coupe du Monde. Vous en pensez quoi, là, messieurs ?
Moi, je serais pas sûr que l'Espagne sera en quart de Coupe du Monde.
Moi non plus. Non, après, il en fait peut-être un peu beaucoup, Luis Enrique.
Ouais.
Peut-être aussi pour motiver.
Ouais, bon, il a raison aussi.
Oui, non, mais c'est vrai qu'il y a de l'enjeu. C'est une grosse équipe en face. C'est une très bonne préparation. Ça,
c'est génial pour eux.
Après, c'est vrai que ces dernières
années. Tu rajoutes en plus la rivalité.
Oui, totalement. Mais c'est vrai que ces dernières années, que ce soit en Coupe du Monde ou même en Ligue des Nations en match aller, c'est souvent des matchs fermés, à part le 3-3 en Coupe du Monde, mais c'est souvent des matchs nuls qui se terminent soit aux prolongations, soit aux pénalty. Donc, non, il y a de l'enjeu pour eux. Et puis nous, on sera aussi devant la télé, hein, pour être honnête. C'est le match à regarder ce soir. Hein.
Ouais, c'est le match.
C'était le match presque à regarder de la semaine pour moi.
20h45, vraiment... oui, chez nos confrères de l'équipe, hein, ils diffusent le match. Et je crois que c'est Beansport, nos confrères qui diffusent le match Brésil-Tunisie. Vas-y.
Je crois qu'on a pas mal fait le tour de ce match. Ouais. Il est hyper intéressant. Ouais. Et c'est une vraie, pour le coup, comme eux, ils ont quand même leur équipe type plus ou moins. C'est vraiment, ça va être le moyen de se tester. Eux, ils peuvent vraiment le prendre comme ça, se dire, c'est un vrai test, on a un mois et demi de la compétition. ils vont vouloir le gagner. Moi, je serais très surpris que l'Espagne gagne ce soir.
Ouais, moi aussi, honnête.
Bon, je crois qu'on bien compris dans nos paroles qu'on n'est pas convaincu par cette aura.
Et assez convaincu par les Portugais.
Oui, voilà. A contrario, c'est vrai que je trouve qu'il y a beaucoup plus d'équilibre dans leur jeu. Il y a beaucoup plus de...
Le banc, quand tu prends le banc ce soir, c'est João Mario, c'est Vitinha, c'est Jota, c'est Neto. Donc il y a quand même...
Oui, c'est vrai.
Il y a du monde au Portugal.
On oublie de citer des gens. Tout à l'heure, j'ai oublié de citer João Félix. Et puis là, on oublie de se dire que, bah, il y a Vitinha qui est titulaire au PSG et qui joue pas titulaire dans cette équipe. Donc il y a un très bon alliage entre puissance et technique, entre jeunesse et expérience, dans à peu près toutes les lignes. Donc moi, je suis très très convaincu par cette équipe du Portugal. Elle me fait la même impression que celle que j'avais en 2016, parce que j'avais pronostiqué le Portugal en 2016. Malheureusement, j'ai eu raison.
Félicitations, parce que vous n'étiez pas beaucoup.
Elle me donne cette même impression d'être sous-cotée, même si elle est un peu moins, parce qu'ils ont gagné justement en 2016. Mais il y a cette impression qu'il y a du talent à toutes les lignes, à tous les postes, et finalement, ça va être très très dur à bouger.
Mais après, je reviens juste sur ce que tu disais tout à l'heure.
Vas-y Alexis, avant de donner la parole à
Cristiano Ronaldo. C'est vrai que s'il arrive à se mettre dans un rôle de leader, un peu comme quand il est sorti en finale de la Coupe du Monde contre de l'Euro contre la France, s'il arrive à motiver les joueurs sans vouloir absolument être titulaire, marquer trois buts, ça peut être,
c'est lui qui détient la clé, je pense, de cette compétition, de cette équipe.
Le Christophe Tollet, justement, qui nous a rejoint avec Alexis et aussi Louis-Marie. Portugal, Espagne, ce soir, justement. On en parlait. Un mot, on aimerait avoir avec toi un mot, justement, le Christophe Tollet.
Qu'est-ce que tu en penses?
Luis Enrique, il disait que c'était un quart de finale de Coupe du Monde.
Bah, c'est vrai que dans la mesure où t'as pas le match de préparation, tu te retrouves à avoir cette Ligue des Nations qui sert de prépa au Mondial. Quart de finale, oui, il a raison, hein, ça a la gueule d'un quart de finale de Coupe du Monde, d'une demi-finale d'Euro, ça fait partie de ces nations quand même en haut de l'affiche d'un point de vue européen. Je vous ai écouté un petit peu parler sur le Portugal, sur le Portugal.
Alors
sur l'Espagne, la Coupe du Monde, c'est encore autre chose, c'est une toute autre compétition, c'est un état d'esprit. L'Espagne, on les attendait pas à l'Euro, ils ont impressionné. Le Portugal, depuis une bonne douzaine d'années, a quand même des générations assez exceptionnelles. Celle de 2016, comme dit Louis-Marie, je l'attendais moi pas forcément, et pourtant elle est allée au bout. J'en ai vu des plus fortes échouer également.
Aussi.
Celle de 2006, par exemple, qui échoue en 2006,
c'est énorme.
Elle est exceptionnelle, mais bon, l'équipe de France.
Mais même celle de 2000 à l'Euro contre la France.
Voilà, donc après,
ça fait 20 ans qu'ils n'ont pas trop de trous.
Il a bien raison, le coach.
Ce qui est sûr, c'est qu'il faudra compter sur ces deux sélections. Pas sous-estimer l'Espagne quand même.
Ah, donc tu n'es pas d'accord avec nous.
Après, sur ce que j'ai vu l'autre jour,
de ce qu'avait proposé l'Espagne à l'Euro, alors après, il faut voir si c'est une continuité, c'était quand même relativement cohérent. Hein. Il y a peut-être moins d'individualité que le Portugal,
mais ça manque. Moi, je trouve que l'Espagne, comme souvent, à force de vouloir avoir le ballon, ça veut rentrer dans les buts avec le ballon. Et ça manque d'un tueur vraiment devant qui va amener de la verticalité, de la vitesse, de la profondeur. On a tout, mais moi je trouve qu'elle ressemble à ces devancières près de ce que je disais tout à l'heure, près 2010, cette Espagne. Ça ressemble à l'équipe des Raoul, toutes ces équipes qui gagnaient jamais, qui jouaient bien. On avait toujours peur d'elles, mais elles faisaient jamais grand chose. En 98, en 2002, ça va pas loin. Toutes ces équipes-là d'Espagne qui avaient du talent. Moi je trouve que le Portugal est beaucoup mieux armé, et c'est un peu aussi l'occasion de se dire qu'il y a quand même quelque chose qui fonctionne bien au Portugal, c'est la formation, parce qu'ils ont un championnat qui fonctionne bien avec trois têtes d'affiche. Ouais. Qui forment des joueurs, qui investissent énormément dans la formation, qui prennent des risques en faisant jouer des joueurs très jeunes, parce qu'il faut le dire, hein, on peut critiquer, on dit ouais, le Portugal c'est un petit championnat, il n'empêche qu'avec le Sporting, le Benfica ou Porto, c'est des équipes
qui sont plus représentatives que nous,
en
Coupe européenne.
Mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, ils jouent la Coupe d'Europe, ils mettent des jeunes dans ces compétitions, ils
n'hésitent
pas à titulariser beaucoup de jeunes joueurs dans des grosses compétitions. Quand tu vois les compositions d'équipe de Porto ou de Benfica quand ils jouent les huitièmes, t'as souvent des jeunes
c'est dans leur ADN de faire jouer des mecs de 16-17 ans qui explosent après, qui vendent 50-60 millions.
Soit ils ont été les chercher en Amérique du Sud, soit effectivement, comme tu le dis, c'est des Portugais, et après, c'est des plus-values qui sont...
Ils les vendent 50 millions minimum.
c'est des mecs qui ont beaucoup d'expérience, très jeunes. Tu vois un Vitinha, beaucoup de gens le découvrent, et j'avoue que je l'avais pas tant vu jouer que ça avant qu'il arrive au PSG. Je le connaissais de nom, mais je regarde pas forcément toujours le championnat portugais. Tu vois qu'il arrive, il est jeune, t'as l'impression que c'est un joueur qui a 3, 4 ans de plus. Et c'est une constante chez les joueurs portugais.
Nuno Mendes aussi.
Merci Louis-Marie et aussi Alexis, sans oublier le coach Tollet. Vous restez avec nous, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM. Une courte pause avant d'accueillir notre invité de ce soir qui n'est autre que Grégoire Axelrod. À de suite. Et de retour sur l'antenne de Beur FM, 20h18 en ce mardi 27 septembre, 20h30, c'est bientôt, et oui, où les Brésiliens, on en parle avec Alexis et aussi autour de cette table, coach Tollet, sans oublier Louis-Marie de ce Brésil-Tunisie. Les Tunisiennes et les Tunisiens, on va vous faire réagir, c'est promis, sur l'antenne de Beur FM à l'approche de ce match. Mais sans plus tarder, on va accueillir notre invité de ce soir pour la première fois avec nous sur l'antenne de Beur FM.
Time Sport. The special one, the special one.
Bonsoir Grégoire Axelrod, comment allez-vous?
Bah écoutez, je vais très très bien, merci beaucoup.
Ah ben justement, pour la première fois avec nous sur l'antenne de Beur FM, la radio de la diversité, dans l'émission Time Sport, excusez-moi, on aimerait un peu revenir avec vous sur ce bouquin pro à tout prix, le filou du foot vide son sac, justement. On vous a pris, racontez-nous juste cette petite, cet épisode qui vous est arrivé un soir de match au Parc des Princes. Ah ouais, on aimerait l'entendre encore une fois.
Oui, oui, bien sûr. En réalité, j'avais une copine qui travaillait à la boutique du PSG. Et c'est vrai que c'était avant un match de Coupe d'Europe, donc de l'UEFA. Et j'étais un peu en dépression parce que pour moi, je pensais que je signerais jamais professionnel parce que c'était compliqué comme j'étais nul au foot. Et je voulais quand même, j'avais un faux site internet, j'avais fait pas mal de trucs pour attirer des clubs professionnels, mais c'était pas assez. Et après, donc elle me voit un peu dépressif et me dit « Mais Greg, si tu veux, je peux te faire visiter le parc, mon boss n'est pas là, j'ai le pass. » Et j'ai dit « Ok, super. » Donc je suis allé prendre un maillot du PSG, j'ai floqué à mon nom. Bon, j'ai dit que c'était pour mon frère en fait. Et après, on est allé dans le parc, dans le vestiaire, sur la pelouse. Bon, et à l'époque, il y avait personne qui avait accès. Et donc, j'ai fait des photos, je les ai envoyées à d'autres agents. Et tout le monde a cru que j'allais jouer avec l'équipe première, en fait. Donc, ça m'a relancé dans ma quête de faire de nouveaux essais.
Ouais, le coach de Tollet, Raj Bouzbé.
Bonsoir, non mais... Il est fort,
Grégoire.
Je trouve ça quand même impressionnant. Alors, en fait, moi, ce qui... Moi, je me dis, mais alors comment ces clubs, quelque part, sont tombés dans le panneau?
Il n'y a pas de réseaux sociaux, c'est en quelle année, Grégoire?
Ouais. Je crois 2009, alors, 2010, non?
Ouais, le summum, c'était mon essai au CSKA Sofia qui jouait à Champions League en 2009.
Voilà.
Donc, il y avait quand même. Il y avait les forums, il y avait Facebook, mais il n'y avait pas Twitter à l'époque.
Ouais.
Et
ils n'avaient pas d'excuses quand même.
Dans les années 2000, ouais. Mais en fait, j'étais un des premiers à avoir un site internet. Bon, après, c'était un blog, j'avais copié Ronaldo, donc j'avais
fait
un top site. Et à l'époque, il n'y avait vraiment que les stars mondiales qui avaient des sites, ça n'existait pas.
Pas faux.
Et j'avais envoyé des courriers à tous les gros clubs de première ligue anglaise, de D2 anglaise et quelques clubs de D3 anglaise. C'était professionnel jusqu'en D4. Et il y a un club de D3 qui me dit OK, viens faire deux jours d'essai avec les pros. En me renvoyant une lettre comme ça. Mais comme il n'y avait pas de site qui donnait les statistiques, il n'y a pas de vidéo à l'époque, en fait, c'est n'importe qui envoyait un courrier qui pouvait être repéré. C'est ce que j'ai fait. Hein. C'était la mode de Nicolas Nelka, donc dès que c'était français.
Ça vous donnait une chance, c'est ça qui est bien, quelque
ouais,
part. C'est assez frais comme histoire. Après, le problème, c'est que l'essai, il faut le transformer.
Ouais.
Et comme vous le disiez, j'ai l'impression que c'était pas le plus simple pour vous.
Ouais, l'essai, au départ, comme j'étais enrobé, c'est sûr que c'était compliqué, même dans le vestiaire, parce que les gens me regardaient bizarrement, ils disaient « Mais qu'est-ce qu'il fait là ?» Tout le monde était hyper baraque. Et moi, j'arrivais, j'étais l'étudiant qui n'avait jamais fait de muscu, qui courait une fois par semaine. Donc, le premier match, c'était dur parce que il m'a mis titulaire, même en D3 anglais. Donc, c'était un truc de fou pour moi. Donc, évidemment, je touche aucun ballon pendant 10 minutes. Et après, t'as le gardien adverse qui fait un long dégagement sur 6 mètres. Et je fais une tête, mais je me rate et je la prends dans l'oreille. Je tombe par terre et tout le monde meurt de rire. Et ça, c'est le pire pour moi. Parce qu'encore, t'es nul, c'est pas grave. Mais quand tout le monde rigole sur le terrain, c'est horrible. La sensation, elle est vraiment horrible.
Mais justement,
alors Alexis, sur ce qu'on disait, Grégoire,
il y avait pas les réseaux sociaux, vous nous disiez que vous aviez un blog, mais au CSKA Sofia, il n'y a pas une histoire dans laquelle, justement, c'est à cause d'un forum qu'il y a un supporter du CSKA qui vous a démasqué et qui vous a empêché de signer, alors que peut-être vous auriez signé au CSKA à l'époque.
Oui, c'est vrai. En fait, j'avais fait 3 jours d'essai. Donc le club, le coach était Penef, qui était un ancien Atlético Madrid, donc c'était pas n'importe qui. Et comme c'était des tests de pré-saison et qu'on avait un tout petit peu de ballon, j'étais en pleine forme parce que plus le temps passait, plus je m'entraînais durement, plus je progressais. Et c'est vrai qu'après 3 jours, l'entraîneur a dit à mon agent qu'il voulait signer un contrat de 3 ans, 15 000 euros par mois. Donc le club est venu faire une photo de moi avec le maillot dans ma salle de bain de la chambre d'hôtel. Donc c'était vraiment...
Oui, c'était proche, quoi.
Ouais, mais c'était. Mais ils ont même mis sur le site internet du CSKA de Sofia, le CSKA, donc la signature d'Axel Rose.
Ah ouais, quand même.
Ils ont fait ça avant que je signe le contrat. Avant que tu signes le contrat.
Ouais, et après.
Et après, tu es tranquille. Mais moi, ils l'ont fait avant.
Alors.
Et là, il y a un fan. Ouais.
Ce qui est fou, alors.
Alors, le coach de Tolède, parce qu'on a, on a plein de questions qui fusent, hein, pour Grégoire.
Ouais, il peut parler de Penev qui, malheureusement, n'est plus là, mais qui fait partie quand même de la génération dorée de la Bulgarie, qui a notamment éliminé l'équipe de France en 92-93. Le CSKA Sofia, c'est quand même, c'est quand même, en termes de formation, l'un des clubs historiques.
Ouais, c'est pas mal.
C'est européen, enfin, c'est plus prestigieux, mais ça a formé quand même des
grands noms
comme Stoïkov ou autre. Et c'est quand même fou de se dire que, il s'est retrouvé à deux doigts de signer au CSKA Sofia. Et après, quand même, des séances d'entraînement, c'est que il a fini par convaincre. Et qu'est-ce que vous êtes dit à ce moment-là, enfin, vous dire que vous êtes à deux doigts de réussir.
J'avais déjà fait des essais dans des grands clubs. J'avais fait Norwich City, j'avais fait Bournemouth, où j'avais marqué.
Ouais, quand même.
J'avais fait New York Red Bull, Sydney FC. Donc j'avais l'habitude. Et il y avait Vladimir Mantchev, qui était une star de Lille, hein, qui était dans l'équipe du CSKA Sofia quand j'étais là-bas.
Ouais.
Donc, non, mais moi en fait. Il n'allait pas faire de moi la méga star. Mais
vous
voyez que j'avais un bon physique, j'avais une bonne mentalité, j'ai une technique correcte, on va dire. Et comme ils pensaient que je venais du PSG, ils ont fait bon, on va le prendre. Parce que évidemment, le CV, c'est important. Mais la réalité, c'est que je joue au PSG en équipe 5. Donc en amateur, sur des terrains rouges. Donc moi, j'étais content parce que il y avait le contrat, il y avait l'argent déjà de base, c'est mieux que de bosser au McDo. Et deuxièmement, il y avait la Champions League. Et pour moi, écouter la musique de la Champions League, c'était quelque chose de fou.
C'est incroyable, justement. Imposteur ou peut-être génie, ayant compris un peu avant les autres, les règles du milieu, si je peux me permettre, le reconcours un peu du foot, c'est ça? C'est ce qu'on peut sous-entendre d'une certaine manière, Grégoire, et avec tout le respect que l'on vous doit, hein, monsieur Axel Rod. Justement, aujourd'hui, avec toutes ces déboires, ces affaires dans le monde du football, et avec la Fédération française de foot, c'est vrai que il y a pas mal de choses qui pourraient être quand même un peu mises de côté et ne plus voir à jamais, quoi. Vous en pensez quoi? Il y a pas mal de choses aujourd'hui qui se sont faites, hein.
Honnêtement, pour moi, c'est pas une surprise, hein, ce qui se passe avec
les frères
Pogba. Parce que pour nous, c'est habituel. Moi je suis intermédiaire en Angleterre depuis 8 ans. Donc j'ai travaillé avec beaucoup de joueurs, même des joueurs connus. Aurélien Tchouaméni, c'était son agent 4 ans quand même. Donc, Aurélien, je l'ai connu quand
tout
il
était
à Bordeaux. Voilà, c'était le plus gros transfert de l'année au Real Madrid. Donc, j'ai vu l'évolution du football en France et vraiment beaucoup, beaucoup de racailles, hein, qui jouent même en équipe de France. Mais bon, les médias, ils préfèrent cacher la réalité en disant que c'est des gens extraordinaires, qui font des bonnes actions tout le temps, alors que la réalité, c'est le contraire. Et c'est vrai qu'il y a un décalage fort entre les supporters et les joueurs. Et même moi, j'ai déjà eu un gros problème avec un joueur qui a été gardé dans un club pro. Et il m'a amené 4 mecs chez moi, quoi, pour me menacer. Donc, c'est
pas tout de même.
C'est un peu moderne. Je veux dire, il n'y a rien de. Pour nous, c'est pas exceptionnel.
Bien sûr.
Pas, que ce soit deux frères qui se balancent entre eux, c'est ça qui est un peu original, on va dire. Mais c'est vrai que ça devient compliqué de travailler dans le foot, et surtout le foot français. Hein.
Mais ce que vous dites, c'est que c'est à cause des joueurs, c'est bien ça. Vous dites que tous les joueurs, en fait, sont, je ne sais pas comment on pourrait dire, soit pourris ou pourris gâtés, pour être un peu plus politiquement corrects.
Je dis pas tous les joueurs, je dis qu'il y a énormément de joueurs qui ont des gros problèmes, même des procès, mais tout est caché par les médias. En fait, moi, ce que je regrette, c'est le décalage entre qui ils sont vraiment, parce que nous, on les côtoie, hein, tous les jours, on sait exactement qui ils sont, et ce qu'ils montrent dans les médias, qui est complètement l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de joueurs, bah, même Benjamin Mendy, pendant combien d'années, c'était la grande star de l'équipe de France, le mec drôle, le mec sympa. On se rend compte qu'en Angleterre, ça a quand même dépassé les limites largement, quoi, là-bas.
Mais est-ce que c'est pas le reflet de la société? Est-ce que c'est pas le reflet de la société
quand
on voit les hommes politiques où les affaires sortent, des stars, finalement des médias ou de ce que vous voulez, du showbiz? Finalement, est-ce que c'est pas le lot de toutes ces personnalités publiques qui ont une image publique et une image réelle à côté? Pourquoi le football serait différent? Parce qu'on voit ça dans tous les sports. Le football essaie de préserver une image comme d'autres. On sait qu'elle n'est pas véritablement la réalité. Donc, pourquoi le football y échapperait, finalement?
Moi, je suis d'accord avec vous. Il y a moins de valeur dans la société actuelle parce que tout le monde pense à être instagrammeur, pense à avoir une grosse voiture, en se disant, tiens, si j'ai une grosse voiture, je vais être heureux. Alors, c'est pas le cas. Donc, c'est sûr que c'est la facilité, mais il y a un manque de respect, il y a un manque de reconnaissance. Et c'est vrai que même moi, au début, j'étais agent, j'ai aidé plein de jeunes à sortir professionnel. Et maintenant, j'arrête. Parce que le joueur, tu peux passer 2 ans avec lui, il a amené à Manchester City, à l'essai, etc. Et du jour au lendemain, il te zappe. Pourquoi ? Parce qu'il était au McDo et qu'il a rencontré le serveur du McDo qui a dit que son frère était peut-être coureur de bidon et qu'il va le croire. Donc c'est sûr qu'on est dans un monde de court-termiste, c'est-à-dire que les gens pensent à court terme et ne veulent rien construire. C'est-à-dire que pour eux, moi j'ai déjà amené un jeune de 18 ans et africain au Barça à l'essai. Barça, quand même, un mec qui était en Afrique. Il a fait un essai 2 semaines avec la réserve du Barça et ils nous ont demandé d'attendre parce que bon, c'était compliqué cette situation. Je reprends ses nouvelles, je crois, 3 semaines après. Il répond plus, ses parents répondent plus, et j'ai appris qu'il avait signé en D2 turc, juste pour prendre du fric. Donc, en fait, c'est quand même assez compliqué de travailler avec des gens comme ça qui sont complètement. Il y a de tout, évidemment, il y a des gens.
Ouais.
Mais il y a beaucoup de joueurs. Moi, j'ai beaucoup de problèmes avec les joueurs parce qu'ils sont instables. Les mecs, tu ne sais pas ce qu'ils peuvent faire demain. C'est-à-dire que tu ne peux pas construire la queue, tu ne peux pas faire de plan de carrière, c'est compliqué.
Ouais, le monde du sport va mal. Le coach Tollet, avec Grégoire.
Si je peux me permettre.
Axel Rod.
Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs instables, mais je pense qu'il y a une instabilité chronique dans le milieu. C'est-à-dire que quand tu as 18 ans et que tu viens, par exemple, du continent africain et que tu n'as strictement rien, ce qui n'est pas une excuse, hein, parce qu'il y en a, il y a quand même des gamins intelligents qui arrivent quand même à avoir la tête sur les épaules et qui s'en sortent. Mais ça va, j'imagine, tellement vite, tellement de monde, tellement d'intermédiaires. Comment être capable de gérer cela, et ça on le voit même avec vous êtes mieux placé que nous, même des joueurs qui évoluent et qui ont évolué en Ligue 1, il y a trop de monde dans le milieu.
Alors honnêtement, les agents à 95% c'est des menteurs, c'est des horreurs aussi, donc c'est sûr que on n'est pas aidé, parce que même moi en tant qu'intermédiaire, souvent on travaille avec un autre agent et les mecs sont des menteurs professionnels, c'est-à-dire qu'ils vont inventer un intérêt d'un club alors qu'il n'y a rien.
Vous faites bien de le dire aussi,
ouais, ils sont spéciaux.
Alors mais ça après, a toujours existé, ça.
Ouais.
C'est pas
parce qu'avant.
Mais là, c'est pire.
Quand on replonge dans les transferts des années 90, par exemple, on va pas taper sur Marseille, mais.
Ouais, avant la pause est terminée avec Grégoire.
Où on faisait semblant d'avoir des offres, on s'inventait des trucs entre coachs qui se connaissaient. Ça a toujours existé, ça, non?
Oui, mais il y avait très peu d'agents, et les gens étaient reconnaissables, et c'est vrai qu'ils n'avaient pas besoin d'inventer des histoires pour plaire aux joueurs. Là, maintenant, c'est n'importe quoi. Ils vont sur Instagram, ils te disent « Tiens, j'ai mon short City sur toi », le joueur lui parle, lui pète le cerveau. Et le problème, c'est aussi l'argent. C'est vrai que moi, j'ai beaucoup d'exemples de joueurs qui étaient des gosses super sympas. Et dès qu'ils ont commencé à gagner des sommes 30, 40, 50 000 euros par mois, eh ben, ils rient. Ils rient, ça veut dire qu'ils oublient beaucoup de choses, ils oublient la famille. Ils te parlent mal. Ils se croient arrivés. Et on donne des contrats de 50 000 euros par mois à des gosses de 17 ans qui n'ont jamais joué en pro. Parce qu'ils ont peur de se faire piquer les joueurs, donc ils vont allonger, alors que le mec n'a rien montré. Alors qu'à une époque, il fallait quand même montrer un minimum en pro, faire quelques matchs de qualité pour avoir un contrat pro. Maintenant, tu as des contrats pro à 16-17 ans alors que tu n'as rien montré.
Oui, ouais, on poursuit. Allez, rapidement, c'est sans doute en lien avant la fin de l'interview.
Du football qui,
Alexis.
Voilà, forcément, s'est développé, qui tout a pris des proportions qui sont absolument énormes. Donc, oui, effectivement, ça peut paraître assez étrange si on dit à un footballeur des années 60 ou 70 qu'un gamin va gagner 50 000 euros par. Mais bon, pour le football actuel, alors moi, effectivement, je ne trouve pas ça forcément valorisable. Mais, à vrai dire, c'est l'économie du football.
Mais c'est les joueurs qui ont pris le pouvoir.
Oui,
j'écoutais récemment Sidney Govou qui expliquait que.
Ancien international français.
Oui, les fameuses amendes qu'il avait à l'Olympiakos, parce que les amendes sur salaire quand il sortait, c'était du pipeau, c'était juste pour faire plaisir aux supporters de dire « Ah ben il a été sanctionné ». Il disait « Mais jamais on m'a eu de retenue sur salaire alors qu'on annonçait ça dans la presse ». Les joueurs ont complètement pris le pouvoir et globalement c'est très difficile de les cadrer
par
les clubs. Il y a quelques clubs qui ont une vraie structure interne et une vraie institution, pas le cas partout.
Grégoire, Axel Rod. Oui, un grand merci, on n'a plus trop le temps. Allez-y.
Okay, merci. Non, je veux dire qu'il y a maintenant, c'est les joueurs qui choisissent l'entraîneur, c'est plus le président. Parce que si l'entraîneur est trop dur, c'est trop strict, les joueurs, ils en s'entraînent plus, on ne veut pas faire 2 séances par jour. Et à la fin, c'est les joueurs qui ont pris le pouvoir. Et c'est un gros problème, ça, c'est sûr. En tout cas, merci beaucoup pour cette interview.
Mais merci aussi pour avoir réagi avec nous sur l'antenne de Beurre FM. On le rappelle, pro à tout prix, le filou du foot, vide de son sac aux éditions L'Archipel. Voilà, un magnifique ouvrage de Grégoire Axelrod, notre invité ce soir sur l'antenne de Beurre FM. À de suite.
Time, Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Retour sur l'antenne de Beurre FM. Il est quelle heure? Il est 20h36 en ce mardi 27 septembre. Toujours en compagnie du coach Tolé. Alexis est avec nous, sans oublier Louis-Marie. Le numéro du standard, on le rappelle rien que pour vous, chers auditeurs. Le 0153483000 à la réalisation. On retrouve Foudil, voilà, qui se fera un plaisir de vous faire passer sur l'antenne de Beurre FM. Allez, on prend la direction des matchs à travers l'Europe d'hier soir et aussi en en ce moment.
Time Sport, le sujet des sociaux. Le sujet des sociaux.
On va en parler justement de ce fameux sujet, c'est les Anglais face à la Mannschaft, ces Allemands. Et c'est vrai que ça reste toujours incroyable, ces matchs entre ces deux nations. Trois buts partout en tout cas. Alexis, on t'écoute.
Ah bah, était fort. Oui, alors ça reste incroyable, mais enfin les 20 premières minutes plus après jusqu'à la 70e, j'ai manqué de m'endormir 10 fois, hein, qu'on soit clair. Pas d'occasion, énormément de déchets techniques des deux côtés. Après bon, c'est vrai que les Allemands peuvent remercier, je veux pas tirer sur l'ambulance, mais Maguire, hein.
Oui, Maguire.
Qui rate une relance sur Moussiala qui fait une faute dans la surface.
On a beaucoup parlé sur les réseaux
sociaux. Numéro 10 après sur le deuxième but. Alors je sais pas pourquoi, peut-être c'est Southgate qui lui a demandé, mais je suis pas sûr.
Oh, et il puis, a la technique pour.
Oui, ça doit être ça. Ouais. D'ailleurs,
il a vu le potentiel technique.
Ouais, c'est ça. Donc ils peuvent remercier Maguire. Et puis après les Anglais qui jouaient bien. Moi j'ai trouvé qu'ils jouaient mieux que les Allemands jusqu'à ce qu'ils prennent le but de Gundogan à la 50e. Ils jouaient mieux. Et puis après ils ont mis en place leur football. J'ai trouvé que dans l'axe plusieurs fois Sterling s'était retrouvé tout seul, avait eu des occasions que Ter Stegen a bien sorti. Donc ça me paraissait logique que l'Angleterre voilà. Et puis malheureusement il menait 3-2. Et puis le gardien de Newcastle qui a pas encore été extraordinaire hier, Nick Pope, qui fait une grosse faute de main sur le troisième but. Donc ils se sont mis dans la difficulté tout seul.
On en parlait tout à l'heure, moi je vais avoir un peu le même constat.
Alors,
que sur l'Espagne, c'est que ce sont des équipes qui ont des points faibles, à contrario du Portugal, comme on le disait tout à l'heure, qui en a pas. On voit que l'Angleterre, il y a des vraies failles dans cette équipe. La défense centrale, il y a quand même un vrai problème. Gardien, en théorie, ils ont Ramsdale, ils ont voulu faire jouer Pope, bon ok, on voit bien qu'a priori ils n'ont pas de numéro 2, ça au moins c'est réglé, ils ont jamais eu, ça fait longtemps qu'ils ont des problèmes de gardien.
Ouais, totalement.
Mais effectivement, cette équipe, elle a des soucis défensifs. L'Allemagne, je trouve que c'est un peu lisible, c'est une équipe qui n'est pas à maturité, elle manque de personnalité, je trouve, cette équipe. Fait. Par rapport à la grande Allemagne, c'est marrant, cette équipe d'Allemagne qui était quand même connue dans les années 2000 et avant, c'était que des caractériels, des gars très forts, des charismatiques. Je trouve qu'ils ont perdu le moule de ces grands joueurs. Quand tu te souviens, quand tu avais Matthäus, Ballack, tu en as toujours eu deux ou trois dans ces équipes allemandes. Ça serait qui aujourd'hui, le patron, le taulier, celui qui met des coups dans les murs? Je trouve que ça manque aujourd'hui.
Ça devrait être Kimmich, mais ou ça Müller,
mais
Müller,
c'est des gens. Kimmich, c'est un gentil garçon.
Exactement.
Et Müller, bah oui, ils ont plus de caractère. Non, mais ils ont plus de caractère, je trouve, les Allemands. Le football allemand a perdu un peu de son identité depuis plusieurs années.
Les mentalités ont changé aussi, hein.
Bah oui, mais du tout, je pense que
c'est vrai quand tu parles. Alors là, tu compares comme pour moi, c'est l'Allemagne qui m'a fasciné aussi.
T'avais quasiment
que des leaders à chaque ligne.
Mais il y a toujours ça.
L'Allemagne
a dominé l'Europe pendant 40 ans. Il faut quand même pas se dire.
Matthäus, t'avais Klinsmann, t'avais Foller, t'avais.
Il y en a eu plein.
Il y avait Kohler, il y avait énormément de joueurs.
Et les générations d'avant, les mecs se tapaient entre eux dans les vestiaires et ils gagnaient. Après, c'était impressionnant cette qualité mentale qu'avait l'Allemagne. Je trouve qu'il. Finalement, depuis qu'ils ont un peu copié le modèle français, alors ça leur permet de gagner la Coupe du Monde 2014, parce qu'ils ont admis qu'ils ont copié le modèle en formation, et ben j'ai l'impression qu'ils ont, à côté, arrêté de former mentalement des mecs à la dure, comme ils le faisaient. Ils ont perdu cet état d'esprit-là. Rappelle-toi Oliver Kahn. Enfin, il n'y a plus ces joueurs-là en équipe d'Allemagne. Et c'est fou de dire que l'équipe d'Allemagne manque de caractère, alors que c'était son point fort pendant 40 ans. C'était des tueurs à gages, les mecs.
La défense centrale d'hier, c'est Schlotterbeck sous le.
Ouais, Alex, c'est mignon, c'est gentil. Mais rappelle-toi ce qu'ils avaient avant, quoi.
Ouais, carrément, non, là, ils vont.
Moi, je me souviens de l'Allemagne des années 80. Alors, ça parle pas aux plus jeunes. C'était des tueurs à gages, les types. Ils faisaient rigoler personne. Et ils font finale 82, finale 86, finale 90, ils la gagnent. Ils étaient en finale tout le temps.
Mais même avant,
tout le temps.
Allemagne 74 contre
les
Allemands. Les Pays-Bas.
C'est incroyable.
Ils gagnent l'Euro 94. Ils vont en quart 94, ils gagnent l'Euro 96 avec Mathias Sammer. T'avais encore des vétérans de la Mannschaft 90.
Dans les années 70, c'était déjà énorme aussi.
Il y avait cette culture, je vois, qui s'est perdue. Mais je pense que ça va un petit peu avec aussi l'évolution de la société en Allemagne aussi.
Ouais, c'est vrai qu'ils se sont assagis. Et c'est dommage, quelque part, ils ont perdu. Et c'est comme, par exemple, la culture du milieu de terrain qui frappait. Alors moi, j'en veux beaucoup à Guardiola pour le football allemand, parce qu'il a déconstruit le football allemand quand il est arrivé au Bayern.
C'était plus la même chose.
Qui frappait. Donc pendant 10 ans, tout le long qu'il a été au Bayern, il n'y a plus un mec qui frappait en Allemagne. Ils ont arrêté le Kartoffen, qui était quand même le signe. Bon, on regardait le championnat allemand pour ça, parce qu'il y avait des frappes de 30 mètres tous les week-ends.
Ouais, des Schweinsteiger de 30 mètres.
Des Schweinsteiger, voilà, des Schweini, il n'y en a plus.
Bien sûr.
Tous ces mecs-là, ils n'existent plus.
Le Trey Lyons aussi.
L'identité, ça se perd très vite. Et il ne faut pas tout mettre sur le dos de Guardiola, mais il a inspiré beaucoup d'entraîneurs. Et du coup, l'Allemagne a un peu perdu cette identité-là. Et le milieu travailleur, qui était dur au mal, qui frappait fort, même s'il manquait de technique, il n'a plus été à la mode.
Peut-être. Harry Kane est tout proche de dépasser aussi la légende de Wayne Rooney au nombre de buts inscrits sous le maillot de l'Angleterre. Hein, de ces fameux
ça, c'est vachement intéressant de se dire qu'Harry Kane, il va être meilleur buteur de l'histoire d'Angleterre. Et finalement, les grands moments d'Harry Kane en équipe d'Angleterre, moi, j'en ai pas vraiment en tête. Des grands moments où, dans des grands matchs, dans des grandes compétitions, est-ce que ce mec-là peut être comparé aux grandes stars? Owen, il a marqué deux fois moins, mais il y a des moments clés, quoi.
Écoute, il est en finale, il va quand même en finale de l'Euro, d'un Euro moyen.
Ouais.
Moyen.
Ouais, bah oui, ça, on est d'accord.
Quand même le statut du joueur. Il a un mondial à lui de éventuellement.
Non, mais tu trouves pas que ça manque dans son historique?
Tout va dépendre de son mondial pour moi.
Non, pour l'instant, donc ça manque.
Ça manque, bien sûr, on est d'accord.
Ouais.
On est d'accord.
Non, ça manque, mais il est, pour le coup, il est pas responsable, Harry Kane.
Allez.
Je dis pas qu'il est responsable,
intéressant en fait.
Non, mais ça c'est vrai, c'est totalement vrai. Ça va avec les problèmes anglais qui datent depuis que
On a des matchs aussi.
Les Anglais ont jamais dominé l'Europe. Ça fait, ils ont volé une Coupe du Monde, c'est tout ce qu'ils ont fait en 70 ans.
Quand même, tu peux pas dire ça. Non, ça en revanche, tu peux pas dire, Louis Marie. Ça, c'est lui Marie qui le dit.
Oui, sans problème.
Bien sûr. Mais c'est toi qui le dis.
Coupe du monde.
Ah ben, ça c'est toi. En 1966.
Entre 62 et 70, la seule fois où le Brésil est pas en demi, ne gagne pas la Coupe du monde.
Ouais.
C'est en 66 parce qu'ils se font sortir par les bouchers hongrois ou bulgares. Je me souviens. Si. Complètement cautionné par un arbitre anglais.
Même.
Avec Pelé qui se fait découper.
C'est les Portugais
Ah oui, les Portugais aussi.
Les Portugais avaient fait mal au.
Alors justement, messieurs. On en a fini avec ce match d'hier soir, 3-3, on le rappelle, entre l'Angleterre et l'Allemagne. On a des matchs qui se jouent, justement. On en a un, allez, à 21h, on va balancer. C'est l'Algérie qui rencontre le Nigeria, à 21h. Et pour un match c'est un match amical, on va balancer, parce qu'on a beaucoup de supporters des Fennecs qui nous écoutent ce soir. La compo des Algériens, Zegba, Mendy, Touba, Attal, Bensebaïni, Benacer, Zerouki, Zorgan, Belaïli, Mahrez en capitaine, et aussi Islam Slimani. Voilà pour les Algériens. Concernant le match aussi du côté de la Porte d'Auteuil, on a les Brésiliens qui ont ouvert le score par l'intermédiaire de Rafinha. C'est 1-0 face aux Tunisiens. Voilà, c'est la combien à peu près? Allez, la 15e minute de jeu.
Ils ont marqué
vite, ça a été assez rapide
quand même. C'est un bon entraînement pour les Tunisiens qui sont dans le groupe de l'équipe de France. Je trouve que c'est bien de rencontrer des énormes nations.
Pas faux, Alexis.
Même s'il faut prendre un score, c'est pas très grave. Il y a toujours de l'expérience.
C'est pas très grave, justement. On aura un œil attentif, parce qu'on reviendra sur cette rencontre dès demain sur l'antenne de Beurre FM. Le Brésil, oui, Marie, le côté tonnerre. Le Brésil. Aux Brésiliens. Là, je suis sérieux.
Depuis le début de l'heure, qu'est-ce qu'on dit? C'est qu'il n'y a pas une équipe européenne qui arrive en pleine forme, qui arrive en pleine confiance.
Ouais.
Tout le monde a des doutes, tout le monde a des incertitudes. Et ceux qui arrivent en pleine bourre, les Sud-Américains, Brésil, Argentine, eux, les Argentins, ils n'ont pas perdu depuis 34 matchs. Ouais. Donc déjà, c'est réglé. Ils ont pris la Copa América, donc ils sont un peu dépucelés avec Messi, et ça, c'est important mentalement. Et le Brésil, ils ont une équipe hyper complète.
L'équipe est énorme.
Elle est hyper complète. Alors énorme. Moi, je trouve que ça manque de talent, cette équipe de Brésil, par rapport à ces très grands adversaires. À part Neymar, il n'y a pas de grande star. Il n'y a pas de numéro 9. On est quand même dans une équipe du Brésil où il n'y a pas de numéro 9.
On a connu quasiment les meilleurs. Pour la génération.
Depuis 1950, on n'a jamais vu une équipe avec aussi. Alors, je ne dis pas que c'est la plus faible. J'ai juste que ça manque de talent individuel.
Et Foudil qui nous balance cette info quand même, qui n'est pas passé inaperçu. 14 matchs sans défaite pour les Brésiliens.
Oui,
pour
cette fameuse CDSAO. Ils ont pas perdu depuis la Copa.
Ouais. 7 pour la Tunisie. Ouais.
7 pour la Tunisie.
Oui, 7 aussi pour la Tunisie. Merci aussi. C'est vrai, pour les Aigles de Carthage.
Non, mais le Brésil, c'est un collectif. Moins de talent individuel, mais en revanche, le collectif est beaucoup plus huilé. Beaucoup plus de soldats, ce qui manquait il y a certaines années.
Il y a quand même, le potentiel offensif, il est quand même. R9, Adriano, Ronaldinho.
Il manque ça, le rêve du Brésil. Il manque ce petit frisson.
Ça, en réalité, des joueurs comme ça, t'en as tous les 30-40 ans.
Mais le Brésil, ils en avaient tout le temps. Ah bah regarde,
oui, mais ils ont 40 ans. C'est vrai qu'en Brésil 2002, par exemple, je te rejoins, mais après, comme il disait, c'est vrai que Brésil 2014, ça me faisait pas particulièrement rêver.
Mais ça fait 10 ans, je suis d'accord que ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans, mais avant, vous parlez de Ronaldo, Rivaldo.
Fred, l'attaquant de Lyon qui était en sélection, pour moi, il y avait un problème là.
Mais finalement, est-ce qu'on peut rentrer Richarlison, qui est pas vraiment une c'est un très très bon joueur. Bah, tu peux le rentrer dans la caste des Ronaldo, Romario, Rivaldo, Zico. Mais on parlait de stars, il y en a toujours eu.
C'est parce qu'on dit maintenant, là, t'as quand même un potentiel joueur jeune à très très fort potentiel. Attendons de voir. Neymar dit qu'il est la meilleure équipe du Brésil. Qu'il est connu.
La plus collective, il a sans doute raison. Collectivement, c'est sans doute la plus forte.
La dernière rubrique de l'émission, Time Sport.
Time Sport, le mode pressing.
Et justement, on aimerait parler avec Ossine qui nous appelle depuis, je crois, à Marseille. On sait pas, parce que lui, c'est un fameux globe trotteur. Voilà, il est aux aguets aussi. l'auditeur. La France, pas si forte, le 0-1-53-3000. Égalisation, merci lui, Marie. Ah ben, c'est pas mal, voilà. Merci, le coach tutelé.
Est-ce que Ossine se souvient de Mehdi Ben Slimane?
Il y en avait un. Et tu avais son maillot floqué aussi, le coach tutelé. Eh, c'est une belle époque, ça. Alexis aussi. Le connaît si bien. Nos Bleus, ils ont plus la tête au Mondial. C'est le débat du jour, Ossine. Que se passe-t-il avec l'équipe de France, Ossine? Bonsoir.
Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Ben, écoutez, l'équipe de France, je ne sais pas, elle est en train de caler. Je ne sais pas ce qu'il y a, mais il y a beaucoup de blessés, d'après ce que j'ai compris.
Ouais.
Une chose est sûre, c'est que l'équipe de France, on souhaiterait que Paul Pogba, Lucas Hernandez et N'Golo Kanté, à travers leurs blessures, puissent, se rétablir avant la Coupe du Monde.
Oui.
Déjà, ça limiterait la casse, je dirais, entre guillemets, parce que ce sont
N'Golo, ça devrait aller normalement début
N'Golo, octobre.
Donc,
Aussi que l'équipe de France est en train de se renouveler. Donc, il y a pas mal de jeunes qui viennent de...
C'est pas le moment de se renouveler aussi, non? Ouais. Après la Coupe du Monde, je veux bien, mais... Si on pouvait attendre un mois avant de devoir se renouveler.
Mais c'est bien parce que voilà, il y a de nouveaux joueurs qui viennent en équipe de France. Donc tout ça, il faut qu'à un moment donné, les cadres puissent s'intégrer et leur permettre de s'épanouir au sein de l'équipe de France. Et c'est pas encore fait dans la mesure où c'est que des matchs amicaux. On sait que l'équipe de France, attention, quand c'est des vrais matchs, ils sont présents. Faut dire la vérité.
Ben on l'espère en tout cas.
Pour que l'équipe de France soit présente, il faudra quand même que les joueurs soient présents. Parce que c'est bien d'intégrer des jeunes. Moi j'adore. Et puis il y a une très belle génération qui arrive. Okay. Le problème c'est que. Un jeune pour qu'il soit bien intégré, il faut qu'il arrive dans de bonnes conditions. Là, on l'a vu lors du dernier match.
Bon.
À partir du moment où les trois défenseurs centraux et les deux milieux de terrain ont 21 ans de moyenne d'âge, ils sont tous intégrés en même temps. Et donc, quand il y en a un qui flanche, il n'y a personne à côté pour le rattraper, pour le mettre dedans. Et du coup, ça peut flinguer les carrières aussi. Donc, alors là, on sait qu'on n'a pas le choix, mais trop intégré de jeunes d'un coup, on sait que c'est très nocif.
Je partage ton opinion, Lou Marie. Et après, voilà, je veux dire, Didier Deschamps, à un moment donné, il est un petit peu dépassé par les événements.
Ouais. Il faut pas.
C'est plus de la tête. Est-ce que il a joué sa dernière carte et il pense ne plus gérer plus ou moins l'équipe de France ou est-ce que il est promu pour quelque chose d'autre?
On ne sait pas. Le coach Tollet. Là, la réaction avec le coach Tollet, Alexis. On va revenir. Ouais, il n'a pas.
C'est un contexte particulier parce que déjà t'as pas le match de préparation, la Coupe du Monde c'est bientôt. On a eu 15 joueurs blessés. Alors après il y a eu des petites moyennes blessures. Déjà sur les 15 joueurs, t'as forcément le tiers qui n'ira pas au Mondial. Enfin tu vas pas.
Tu peux pas réintégrer les mecs qui sortent de blessure.
Voilà, le problème c'est que tu vas pas pouvoir réintégrer, quel que soit leur statut, des joueurs qui vont arriver en semi-méforme et qui n'ont pas joué depuis un mois.
Lucas Hernandez,
c'est pas possible.
Par exemple, c'est jusqu'à fin octobre. Lucas Hernandez, Pogba, Camara, c'est au moins jusqu'à début novembre.
Il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas joué pendant un mois et demi, deux mois. Tu vas pas les prendre parce que c'est des noms. Il y a un moment, je pense qu'il le sait aussi. Et parmi les joueurs que l'on a vu qu'il a peut-être été forcé de prendre, certains vont avoir des surprises beaucoup plus qu'attendues qui iront au Mondial par rapport à une question de timing.
Je suis tout à fait d'accord avec le coach Tollet, mais le seul souci, moi ce que je reproche un tout petit peu à Deschamps en ce moment, c'est qu'il ne teste que des jeunes. Parce que là, on n'est plus dans les périodes de test. Il faut prendre des mecs qui soient prêts à jouer dans deux mois et être titulaires. Les jeunes, on va me dire, ils jouent au Barça, ils jouent dans des grands clubs, mais ils jouent à côté de joueurs d'expérience.
Ça faudrait qu'ils prennent des joueurs peut-être à maturité qui ont connu les Bleus et qu'on pourrait faire.
Pas forcément connu les Bleus. Moi, il y a un mec que je prendrais au milieu de terrain. Tu sais que tu vas manquer de créativité au milieu central. Il y a quand même un mec que j'aurais voulu voir tester.
Alors qui?
C'était J. Savanier. Ouais. Je suis désolé, c'est un mec qui a de l'expérience. Alors c'est un profil particulier, mais c'est un mec qui a du mental, qui est là. Moi, je vais aimer, et qui lui ne va pas se faire démobilisé ou déconcentré par personne. Mais pourquoi il vient pas? Pourquoi on fait venir encore quatre jeunes pour pas tester TJ Savanier? Un mec comme ça qui a
cette l'énigme.
Comme beaucoup, hein. Il est reçoit pour
tout. Aucine, on revient Aucine avant de donner la parole à Alexis, notre consultant.
Il y a beaucoup de joueurs, tu sais, qui font des carrières.
Moi, je pense que l'équipe de France a toujours eu le potentiel pour se hisser, on va dire, dans les huitièmes, voire les demi-finales. Moi, je pense que oui, c'est clair que là, il y a une difficulté qu'il faut prendre en compte, c'est les blessures. C'est des choses qui sont aléatoires au sein des équipes de foot. Et là, c'est vraiment, il faut vraiment voir si Didier Deschamps est capable, il a les compétences pour vraiment faire une
aussi, c'est plus aléatoire. Pogba, Kanté, c'est des joueurs qui ratent beaucoup, beaucoup de matchs depuis le titre. C'est simple, Kanté, il a joué... ce que je te dis, c'est que Kanté, il a raté plus de la moitié des matchs des Bleus depuis le titre. C'est quand même une réalité, il a joué moins de 50% des matchs depuis 2018.
Mais,
donc tu dois l'anticiper.
Même s'il a raté tous ses matchs, il est très efficace, N'Golo Kanté.
Mais on est d'accord, mais le problème, c'est que s'il n'est pas là. Donc il faut anticiper. Ce que le seul reproche que je fais, c'est que la blessure d'N'Golo Kanté, tu ne peux pas dire qu'elle sort du chapeau. Depuis trois ans, tu dois te préparer à ce qu'N'Golo Kanté, tu as une chance sur deux qu'il ne soit pas là. Et donc, il faut te dire, plutôt que de tester des jeunes différents à chaque fois, j'essaye d'installer un numéro bis, où j'ai pas de nom en tête, hein, mais il aurait peut-être installé des joueurs dont en se disant ça risque d'être la paire de l'équipe de France plutôt que là je suis désolé installer Fofana Tchouaméni c'est peut-être un peu risqué, sont jeunes.
Alors Alexis,
je pense que Didier Deschamps il a mal géré ce problème là du fait que les blessures, c'est vrai qu'elles sont venues on ne maîtrise pas tout ça, c'est venu à un moment donné et c'est vrai que il a pas fait un petit peu cette transition assez tôt avec les nouvelles générations pour pouvoir avoir cet avantage ou on va dire cet équilibre pour éviter d'avoir...
Non mais merci Aucine. On va terminer avec Alexis Aucine.
Je rejoins Louis-Marie et Aucine d'un certain point de vue, c'est que là c'est quand même un format de compétition qui va se dérouler en novembre pour une Coupe du Monde, c'est inédit. On n'aura pas de match de préparation. Les mecs arriveront cramés de août à novembre, ils vont jouer comme des malades tous les trois jours. Donc on savait qu'il y aurait des blessures. Personne ne va pouvoir présenter une liste de 23. Enfin, donc ça effectivement, je te rejoins Louis-Marie, il fallait absolument l'anticiper.
Avec des joueurs d'expérience.
Ouais. Oui, et ça n'a pas été fait, force est de constater.
Un grand merci, Louis-Marie, Alexis, sans oublier le coach Tolé, de m'avoir accompagné jusqu'à 21h, la suite des programmes sur l'antenne de Beurre FM. On le rappelle, 21h, 23h, c'est Vanessa qui arrive avec son réalisateur. Non, justement, il y a la suite des programmes sur l'antenne de Beurre FM, et nous, on reviendra, c'est promis, sur Brésil, Tunisie, dès demain, et sans oublier aussi, 21h, l'Algérie, Nigeria. Mais on reviendra, là aussi, encore sur cette fédération française de football qui intéresse tant toute l'équipe de Time Sport et aussi vous, chers auditeurs de Beurre FM. Bye bye.
Retrouvez Time Sport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.